J'aimerais prier avec vous en vous demandant de vous lever quelques secondes. Et nous allons prier. Nous nous mettons à ton écoute parce qu'il y a tellement aujourd'hui de bruit, de rumeurs, de troubles. Nous voulons entendre la voix du bon berger qui console et rassure ses brebis, ses enfants. Nous voulons écouter cette voix dans l'époque que nous traversons, qui est particulière. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que sera ton retour. Mais déjà, nous voulons te recevoir, t'accueillir en nous, avec nous, chez nous. Merci pour la présence de ses amis, de ses frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons passer cette petite heure paisiblement, sans se faire peur, calmement. La fois dernière, on avait mis sur la baie aveugle, derrière, centrale, des textes. Mais là, on va les lire à la fin, juste à la fin. Je vais vous les citer. Il y en a plusieurs, évidemment. Mais à chaque fois, je donnerai la référence du chapitre. Nous connaissons tous le credo qui, depuis des siècles, a été déposé dans les églises pour servir de référence, pour que les églises aient une pensée commune, une foi commune. Il reviendra juger les vivants et les morts. C'est ça ? Il reviendra juger les vivants et les morts. Alors, si nous voulons parler aujourd'hui de son retour, je voudrais vous dire que c'est l'événement essentiel, central, de toute la fin. L'événement central, ce n'est pas le jugement du monde, ce n'est pas la résurrection des morts, ce n'est pas la restauration d'Israël. L'événement central, c'est l'avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus. Il reviendra. S'il n'y avait pas cet avènement, le christianisme serait bancal. Les promesses ne seraient pas accomplies. Nous serions toujours dans l'attente, sans savoir exactement ce qui va arriver. Pour reprendre les paraboles de Jésus, l'époux, le marié, ne serait pas là. Le maître de maison qui nous a confié ses biens, on a l'impression qu'il ne reviendra jamais. L'avenir semble vide, désincarné, c'est troublant. S'il n'y avait pas eu dans mon enfance cette parole de ma mère, de temps en temps, elle me disait « Tu restes tranquille, je viens bientôt ». Bon, rien que ça, ça me disait « Je ne suis pas seul, il fait un peu sombre dans la maison, mais enfin, maman va revenir bientôt ». Et s'il n'y avait pas ce retour de Jésus, les Écritures saintes nous auraient tous trompés. Et l'apôtre Paul dit, nous serions loin du Seigneur. Je crois qu'on est fait pour être proches, ensemble. Sa venue est aussi certaine que le lever du jour, disent les prophètes de la Bible, bien sûr. Quand Israël était dans le désert, vers la terre promise, la foi de ce peuple, pendant 40 ans, a été maintenue par la promesse d'une terre de lait et de miel. Ça veut dire l'abondance. Et quand cette promesse n'était plus dans leur cœur, quand elle vacillait, eh bien, ils voulaient repartir en Égypte. Et même, je vous dirais, ils voulaient mourir en Égypte et ne pas continuer dans cette galère du désert. Ainsi, l'Église, de la même façon, l'Église est mise dans une position d'attente. On attend. L'apôtre Saint Paul disait, vous vous êtes convertis au Christ pour l'attendre des cieux. Nous l'attendons. Et les anges, le jour de l'ascension, avec les disciples qui étaient là, sur le mont des Oliviers, les anges ont dit ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce sera l'inverse. Il descendra. Comme il est monté, il descendra. Alors j'ai envie de dire cet après-midi avec les aveugles de Jéricho, Seigneur, ouvre nos yeux. Il y a beaucoup d'églises qui cachent ces textes, ces vérités. Ouvre nos yeux pour qu'on voit ce qui est à voir. Et Jésus, dans l'histoire des aveugles, il toucha leurs yeux et les aveugles suivirent, guéris. Les disciples sont habitués à ces paroles sur le retour de Jésus. « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Je vous prendrai avec moi. Je reviendrai vous chercher. » Les disciples sont à l'école de ce retour. Ils sont baignés dans ces paroles « Je viens ». Quand Jésus prépare la transfiguration avec ses apôtres, il dit « Quelques-uns d'entre vous qui sont ici ne mourront pas sans voir le royaume de Dieu. » Pourtant, les disciples sont morts depuis longtemps et puis finalement, ils n'ont pas vécu pour voir ce que nous voyons. « Quelques-uns ici ne mourront pas sans voir. » En fait, il voulait parler de l'avènement du Christ. La transfiguration, ça représente, ce n'est pas, mais ça représente le retour de Jésus qui vient dans sa beauté, dans sa lumière, dans sa force, dans sa gloire, avec la gloire de Dieu. Venons-en maintenant au fait, comment reviendra-t-il le retour de Jésus ? Jésus nous en parle quand même beaucoup dans son évangile, dans ses évangiles, sauf l'évangile de Jean. Et il dit notamment ceci à chaque fois, ce n'est pas très réjouissant pour nous, parce qu'on sait ce que ça veut dire, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. » Comment peut-on ne pas se troubler devant les bruits de guerre d'aujourd'hui ? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi il faut ? Il faut, comme une semence qui a été mise en terre, il faut qu'elle lève. Et quand on sème le vent, on récolte la tempête. Il faut que ça arrive. Alors, que va-t-il se passer juste avant la venue de Jésus ? Je crois parce que je vois. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, en relisant mon texte, j'avais l'impression de dire, mais tout ça, on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas du tout à fait nouveau. Eh bien, après une période de grand trouble, je crois qu'on y est là, vraiment, une période de grand trouble, il y aura une dernière guerre. Trouble, d'ailleurs, on a dans la Bible cette expression, la grande tribulation. Il y aura la dernière guerre, je n'ai pas envie de l'appeler la der des der, comme disaient les anciens de 1914, quand même. Mais cette guerre sera le jour de l'Éternel. Elle s'appelle le jour de l'Éternel, je dirais, annoncé quasiment par tous les prophètes de la Bible. Le jour de l'Éternel. Jésus n'en parle pas beaucoup, mais dans l'Apocalypse, dans les prophètes, c'est annoncé très souvent. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui écrit l'Apocalypse, il voit, il a une vision des choses à venir, il voit un dragon, je pense que ça peut représenter le diable, un dragon, et il y a trois démons qui sortent de la bouche du dragon. Tout ça, c'est imagé pour nous, mais il y aura la réalité. Ces démons sortent de la bouche du dragon et ils font de grands miracles et ils vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le grand jour de Dieu. effrayant. Je me suis même demandé, est-ce qu'on peut être roi dans les temps à venir, bientôt, puisque ces gens-là, ces rois, seront poussés vers une guerre, tous, par quelque chose de spirituel, de malin. Mais l'apôtre Jean, quand il raconte cette histoire, il dit dans son Apocalypse, « Mais voici, je viens comme un voleur », ça veut dire « Jésus, viens, préparez-vous, heureux celui qui veille, qui attend, qui espère ». Ces trois démons qui vont vers les rois de la terre, ils vont les rassembler dans un lieu qu'on appelle la montagne de la désolation, Armageddon, dans l'Apocalypse. Au nord d'Israël, ils vont rassembler là toutes les armées du monde. Mais tout ça, c'est possible. Israël, aujourd'hui, est sur la balance. Le Proche-Orient est sur la balance. Tous les rois de la terre sont sur la balance aujourd'hui. Partout. Tout est liquide, fragile. Alors, le plus étonnant, on va aller de découverte en découverte, hein, mais j'ai besoin de savoir. Quand je suis malade, je dis à mon médecin, dites-moi tout. Ne me dites pas, ça ira bien. Comme chantait Annie Cordy, ça ira bien demain. Non, dites-moi tout, docteur. Et le Christ, il nous a donné des paroles quand même assez tranchantes, c'est pour nous tenir en éveil. Les rois de la terre avec leurs armées, tenez-vous bien, Apocalypse chapitre 19, ils viendront faire la guerre au Christ. Il n'est pas là, le Christ. Le Christ qui apparaît tout à coup à l'apôtre Jean, monté sur un cheval blanc, il y a beaucoup d'images, hein, monté sur un cheval blanc avec toute l'armée derrière de ses anges, de ses serviteurs, sur des chevaux blancs. Et voici que ces rois de la terre veulent faire la guerre à Jésus. Ils veulent combattre, je cite l'Apocalypse, ils veulent combattre l'agneau, je ne sais pas comment ils vont en faire, mais l'agneau les vaincra. Avec les élus qui sont avec lui, ils vaincront tous ces rois. Donc, c'est une guerre entre le Christ et les chefs des nations. Mais en fait, derrière tout ça, ils viennent dans ce pays là-bas pour détruire Jérusalem et Israël. Voilà l'intention. Mais en touchant à Jérusalem, on touche à la prunelle de Dieu. Dans ce même texte, il est dit « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples. Et tous ceux qui soulèveront Jérusalem seront meurtris, blessés. » Mais c'est vrai. Mais oui, on l'a vu déjà. Depuis un certain temps, on voit des peuples du monde qui veulent faire la guerre à Israël, ce tout petit pays grand comme la Bretagne. Une sorte de vertige, un délire, un aveuglement. On va vers cette époque-là, mais on y va avec une dimension jamais vue. L'Apocalypse nous parle de dizaines de millions de soldats. Quand Napoléon avait 100 000 soldats, c'était déjà magnifique. Hein. 100 000 soldats, c'est déjà une belle armée. Hein. Mais là, ça va dépasser, évidemment, on le comprend maintenant. On n'est pas aveugle, on comprend qu'aujourd'hui, on peut rassembler beaucoup de monde. Avec une dimension qu'on n'a jamais vue. En réalité, c'est le Christ qui rassemble les nations. Il viendra juger les vivants et les morts. On répète parfois sans s'y arrêter, sans comprendre, sans vouloir comprendre. Et c'est le Christ, c'est Dieu qui va rassembler les peuples, les nations, les, qui ont délibérément exclu la foi, le Christ, Dieu, son amour, de toute leur vie. Ézéchiel 38, le Seigneur parle à un peuple du Nord. Ça peut être l'Europe, ça peut être la Russie, ça peut, je ne sais pas, on ne rentre pas dans les détails. Mais le Seigneur dit, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires et je te ferai marcher contre mon pays. Quelque chose qui dépasse notre raisonnement. On est entraîné vers cette histoire malgré nous, tous ces soldats qui vont là, malgré eux, ils y vont. La Bible dit « afin que les nations me connaissent ». Je repense à Pharaon, le Pharaon d'Égypte au temps de Moïse, qui disait non et non et non et non. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ? Et des plaies sont tombées sur l'Égypte. Et dans ces plaies, il y avait bien sûr la frappe de Dieu qui disait « Laisse aller mon peuple !» Mais à la fois, il y avait la démonstration de la force de Dieu qui transforme le Nil en sang, qui fait monter des grenouilles et des poux, etc. Bon, vous connaissez toutes les plaies d'Égypte. Alors, on a l'impression qu'à la fin, le monde entier verra la puissance de Dieu, comme on ne l'a pas montré dans les églises, à travers cette histoire politique, mais spirituelle surtout. Alors des dizaines de textes, des psaumes, des prophètes nous parlent de ce jour du jugement, le jour de l'Éternel, dans les psaumes. Psaume numéro 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèguent-ils avec eux ?» contre l'Éternel et contre son Messie, un désir de nuire à Dieu. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour nuire à la réputation de Dieu, des églises ou de la foi. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre Dieu et contre son Messie ? Ce jour-là, on l'a parfois oublié, et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas loin de nous. C'est un jour où le Seigneur interviendra lui-même. Il interviendra aussi avec un bouleversement de la nature. Quand ses armées viendront, le Seigneur viendra bientôt, il descendra, il y aura un bouleversement de la nature. Il y aura des tremblements de terre, je vous l'avais déjà dit. Il y aura des ténèbres, le bruit, on l'avait vu ça, le bruit de la mer et des flots qui terroriseront les habitants de la terre. Ce sont des bouleversements naturels et surnaturels, comme Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si nous serons là pour voir ça, bien sûr. Et même si nous sommes là, nous ne serons pas forcément là-bas. Mais toute la terre sera ébranlée. Ézéchiel 38 encore, le Seigneur Dieu dit, je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur ses troupes. Je repense encore à Sodome, je laisse aller ma tête. Et je ferai pleuvoir une pluie violente et des pierres de grêle dont les grêlons pèseront un talent. Tenez-vous bien, 32 kilos. Alors, dans le livre de Job, Dieu parle à Job et il parle des amas de glace qui sont réservés pour les temps de guerre. Surprenant. Et à la fin, tout au bout, on a déjà eu de la grêle partout, mais on n'a jamais vu ça. Tout au bout de la Bible, dans l'Apocalypse, on voit ces kilos de grêle qui tombent, et l'Apocalypse dit, les hommes vont blasphémer Dieu, ils vont injurier Dieu qui leur a donné un si grand fléau. On ne peut rien faire. Mais quand on meurt, on ne peut rien faire. Tout se fait avant. pas après. Voilà. Alors, le Seigneur disait avec au prophète Osée, il parle à Israël, il parle au monde, « Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu t'es révolté contre celui qui pouvait te secourir. » Terrible de résister au seul qui peut sauver l'humanité. Le seul. Il n'y a pas d'eux. Aucune organisation, aucune conférence, de l'ONU, rien ne pourra nous sauver, sinon une intervention de Dieu. Alors, boum, les grêlons qui tombent, le feu qui tombe, et les armées qui viennent dans le nord d'Israël et qui veulent attaquer le Christ, qui n'est pas là, visiblement, bien sûr, mais ils ont de la haine contre le Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de haine et beaucoup d'indifférence et beaucoup de méchanceté même contre le Christ et ses témoins. Et dans toute cette débâcle, les ennemis de Dieu se détruiront mutuellement. La Bible dit, ils lèveront la main les uns sur les autres. Mais je ne suis pas surpris. Les guerres mondiales ont été exactement ça. On a mis la main sur nos frères, les voisins. On a mis la main les uns sur les autres. Les guerres mondiales ont fait 283 millions de morts. 283 millions. Alors, je ne suis pas surpris, je ne veux pas être surpris. J'ai étudié la Deuxième Guerre mondiale particulièrement, je me dis, ben, c'est ainsi, les hommes sont capables de se suicider en masse par des gouvernements qui ne voient pas, ou par un aveuglement vis-à-vis du Christ, le sauveur du monde. Alors, évidemment, on s'est dit, mais est-ce que les hommes ne mettront pas la main sur la manette de la bombe atomique ? Est-ce que notre jour le plus terrible de l'histoire de l'humanité, est-ce que ce n'est pas le 6 août 1945 ? Où pour la première fois, deux bombes sont tombées sur le Japon. Est-ce que ce jour-là, ce n'était pas la date la plus affreuse ? Aujourd'hui, on peut faire 100 fois plus. Je ne crois pas que l'humanité se détruira par la main des hommes. Elle se détruit quand même parce qu'on fait de la pollution, on tue beaucoup de gens, d'enfants, par la pollution. On le fait quand même, mais je ne crois pas que l'humanité disparaîtra par la main des hommes, mais c'est Dieu qui mettra fin. C'est pas pareil. Plus rassurant. Ça veut dire qu'il est aux commandes, il dirige, il règle des comptes. On sent bien en nous qu'on aura des comptes à rendre, bien sûr. Tout le monde le ressent. Même ceux qui disent « Dieu, hop, ça ne m'intéresse pas ». On aura des comptes à rendre. Et à la fin des temps, il y aura des comptes à rendre. Alors, j'en arrive au retour de Jésus, parce que ça, c'est la préparation juste avant. Il y aura tout à coup un temps de paix, tranquille, et brusquement, une ruine soudaine, comme les douleurs de la femme qui enfante. Tout à coup, une ruine soudaine sur tous les peuples de la terre. Et c'est là qu'apparaîtra le Christ descendant sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, en Israël. Je vous cite Zacharie, le prophète, « L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme au jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem. Il est parti là, il reviendra là. » On a beau dire, ce sera ainsi. Rassurant de savoir quand même que Dieu ne met pas la clé sous la porte, sous le paillasson. Il contrôle, il est là. Fais attention. C'est le jour de l'Éternel. Voilà comment on l'appelle, le jour, le grand jour. Jour de colère aussi, qui réduira la la terre en solitude, parce que cette guerre, je ne peux pas l'imaginer, elle sera terrible. Et il y aura beaucoup de gens qui mourront. On a déjà vu des massacres extraordinaires. Mais je vais vous dire, le Christ sur la croix, là, il est dans les ténèbres, il est dans la colère des hommes, il est dans le bouleversement de sa vie, il est dans la mort. Mais ce qu'il vit sur la croix, c'est le jour de l'Éternel. C'est ce jour que je ne devrais pas voir, moi et vous. Il l'a pris ce jour-là sur lui, il a pris cette tempête sur lui, cette tempête de mort, pour ne pas que nous l'ayons, nous. Ce jour-là, Jésus a vécu sur la croix la fin du monde, avant l'heure. Il a vécu sur la croix un temps de ténèbres, de tremblements de terre, de bouleversements. J'ouvre une parenthèse. Ça va? Vous me suivez bien? C'est pas facile. Hein? Allez, docteur, dites-moi ce que j'ai. Et où je reviens à mon médecin. Dites-moi ce que j'ai. Ne me cachez rien. Il ne faut pas cacher la vérité aux mourants. Il ne faut pas cacher la vérité aux vivants. Il faut dire la vérité. La vérité qui libère et qui rassure, on n'est pas seul dans cette histoire-là. Pendant ce temps-là, j'ouvre une parenthèse. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Le Christ l'a dit, les évangiles le disent, les épîtres le disent, l'Église sera malmenée. Pardonnez-moi, il faut dire la vérité, je vous l'ai dit. Elle sera malmenée par des faux bergers. On le voit, mais ce que je vous dis là, il n'y a rien de nouveau. On le voit aujourd'hui. Jésus disait il y a 2000 ans à ses apôtres à Jérusalem, si quelqu'un vous dit « le Christ est ici », n'y allez pas. Si quelqu'un vous dit « le Christ est là », ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux prophètes. Ils feront même de grands prodiges, magnifiques, de grands miracles, au point même de séduire, si c'était possible, les élus de Dieu. Donc ce sera vraiment le paquet, comme on dit. Alors, nous le voyons aujourd'hui. Dans les églises, on cherche non pas un raffinement théologique, un raffinement biblique, mais on cherche du plus. Plus de force, plus de miracles. Alors, le grand danger de l'Église de la fin des temps, ce sera la séduction. Ne vous laissez pas séduire, tromper, aveugler, conduire comme le bœuf à l'abattoir. Parce que le diable qui, dans cette époque-là, mais depuis toujours, va mettre des bouleversements dans l'humanité, le désordre, comme aujourd'hui. Je crois que l'Église, elle va être secouée par toutes sortes de scandales, de séductions. Jésus envoie un message aux sept églises de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y a sept églises qui représentent toutes nos églises, en fait. Et pour chaque église, il donne un petit message, très court. Et en le lisant, en le relisant, on voit, par transparence, on voit ce qu'étaient les églises du premier temps et de notre temps. C'est les mêmes églises. Et on voit quoi? On voit que dans les églises du premier temps, il y avait des fausses richesses, il y avait des souffrances, il y avait même des persécutions. Le diable avait pris une place dans les églises, il y avait des scandales. La vie religieuse était apparente. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Voilà. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je le répète, je pense que le plus grand danger de la fin, de notre temps aussi, c'est la séduction qui nous conduit vers l'hérésie, vers des fausses doctrines, mais surtout qui nous conduit vers l'apostasie. On abandonnera le Christ. Saint Paul disait, beaucoup abandonneront le Seigneur, beaucoup. Alors, ça me secoue, ça me pique. Je me dis, mais attention, moi je suis dans le beaucoup aussi, hein, et je dois veiller sur ma prédication, mais sur ma vie morale, sur tout ce que je vis, tout ce que je pense. Et dans toutes ces petites lettres à l'Apocalypse, là, il y a un petit message qui revient, lancinant, toujours un peu le même, jusqu'à ce que je vienne, vienne. Je viens bientôt, comme un voleur. Tu ne sais pas à quelle heure je viendrai. Il sonne les cloches. Il tire la sonnette d'alarme. Le Christ revient. Tout ce qui se passe sont des signes avant-coureurs. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on soit prêt. Quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, en Grèce, l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres, quand même, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Vous le savez, quand même. Ah, oh, ben oui, vous le savez, ben oui. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça ne devrait pas vous surprendre. Jésus dit, il y aura des guerres, ne soyez pas surpris. Il ne faut pas que vous soyez surpris, les choses évoluent ainsi. Et on ne pourra pas changer. Donc nous avons si nous sommes prêts, des petits signaux. On ne devrait pas être troublé et même surpris. Puis il y a ce beau texte de l'épître de Pierre. Il dit de servir vraiment le Seigneur jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne dans votre cœur. C'est beau, une belle parole. L'étoile du matin vienne dans votre cœur. C'est quoi cette étoile? L'étoile du matin, vous savez ce que c'est l'étoile du matin? C'est Vénus. Et elle se montre juste avant le lever du soleil. On voit dans le ciel la planète Vénus. Et dans notre vie, l'étoile du matin, juste avant que le soleil se lève, Jésus, je pense que l'étoile du matin, ça pourrait représenter, je peux vous le dire, quelque chose qui passe en nous disant, ça y est, prépare-toi. L'étoile du matin, c'est pas... L'étoile du matin dans le ciel, c'est pas énorme, c'est pas le soleil. Mais cette petite lumière dans le ciel nous dit, le soleil va se lever. Et en nous, je pense, avec la Bible, au dernier moment, nous ne devrions pas être surpris parce qu'il y a cette petite étoile, petite voix mystérieuse de Dieu qui nous dira, c'est le moment. Prépare-toi. Alors voilà l'Église de ces temps troublés, où l'Église sera menacée par ses propres scandales, où l'Église risque, je pense à l'épître de Jude, où l'Église risque de devenir un arbre d'automne sans fruits, il ne produira rien, où l'Église risque de devenir un nuage sans eau, il n'y aura rien. Il y aura assez beau, ça va être de la mousse, mais il n'y aura rien. On aura un bel arbre sans fruits. Pas facile ce temps-là. Alors maintenant, je vous ai parlé de l'Église en parenthèse, je vous ai parlé de cette préparation au niveau mondial avec toutes ces armées en Israël. Là, je ne sais pas, je me dis, ça pourrait se produire d'ici quelques semaines, quelques jours même, tellement les choses sont tendues aujourd'hui. Et tellement on parle de guerre tous les jours. Bon. Et puis voici qu'au-dessus de ce désordre mondial, voici qu'il y a le grand événement. Vous êtes venus cet après-midi pour ça. La venue, le retour de Jésus. D'abord, c'est pas facile parce que c'est un puzzle qui est un petit peu démonté. Tous les morceaux sont bons. Tout est vrai. Tout est juste, mais on ne sait pas toujours comment les mettre, vous savez, les puzzles de votre enfance. Ouh, pas facile à remettre en place. Hein. Alors, je n'ai pas réussi parfaitement à remettre tout en place, parce que c'est un mystère que Dieu se réserve. Mais quand il va venir, ce sera aussi sur le mont des Oliviers, mais aussi pour quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être parmi nous, pas ici. Quelqu'un qui aujourd'hui est une menace pour le monde. Je vais vous dire son nom, il n'y a pas de secret. Il s'appelle l'homme du péché, l'homme sans foi ni loi, c'est le brouillon, l'homme contre Dieu. On l'appelle chez nous l'Antichrist, qui incarne la puissance du diable contre Jésus. Le diable est entré dans deux personnes, Judas. Le diable entra en lui et Judas sortit et il était nuit. Du Judas, il était nuit, c'est ténèbres. La deuxième personne dans laquelle le diable entrera, c'est l'Antichrist. Et quand Jésus paraîtra, alors je ne sais pas à quel moment on a du mal à mettre les morceaux, il anéantira cet homme-là par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. Je ne pense pas qu'il soufflera dessus, mais dans la bouche, il y a une parole. Et la parole que Jésus prononcera ce jour-là, anéantira complètement l'homme du péché. Restez chez vous, ne bougez pas, restez au lit même, qui fera les plus grands miracles de la terre. Oh, alléluia! Attention, c'est un séducteur. C'est le menteur. Jésus disait à propos du diable, il n'y a aucune vérité en lui. Aucune. Chaque fois qu'il parle, c'est faux, c'est archi faux. Ça paraît bien, c'est faux. C'est le menteur, c'est le voleur, c'est le meurtrier. Ah oui, voilà. Je vous ai tout dit. Donc, il séduira par beaucoup de miracles et par la séduction du péché. Aujourd'hui, il y a une valorisation exceptionnelle de la sexualité. Va loin. Aujourd'hui, il y a une valorisation des écrans, de l'argent, du profit. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas des miracles dans ce domaine-là pour que ça soit magnifique, mais tromperie à 100%. Enfin, l'homme du péché est anéanti, ouf. Et puis, voici la suite, et c'est là que ça nous intéresse, c'est la fin qui est intéressante, plus pour nous. Un signal. Je pense que dans le ciel, tout est prêt. Vous êtes prêts, vous ? Là-haut, c'est prêt. Ça ne bouge pas trop pour l'instant, mais ça doit bouger beaucoup quand même. Tout est prêt pour le retour. Il y a un signal qui sera donné. Je ne sais pas lequel. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. À la voix d'un archange, je suis surpris que des créatures belles quand même, plus que nous, des archanges, prennent une place si importante dans le retour de Jésus. À la voix d'un archange, je ne sais pas ce qu'il dira, « Allez, que la gloire paraisse du Seigneur. » Bon, je ne sais pas ce qu'il dira. Au son de la trompette de Dieu, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. On ne pourra pas le retenir, on ne pourra pas le freiner, on ne pourra pas l'arrêter. Tout sera prêt. Il descendra du ciel. Les morts en Christ, ça veut dire les morts, morts dans la foi. Ceux qui ont, j'aime beaucoup le grec, ceux qui ont été enveloppés par la foi. On est dans une couverture, dans une protection, dans un revêtement, un survêtement. Ceux qui sont morts dans la foi. Ils ressusciteront ce jour-là par milliards, revêtus du Christ. ils ressusciteront premièrement. Parce qu'il y a un deuxièmement. Il y a tous les autres, là, à Rennes, qui sont restés. Là, je parle de ceux qui étaient morts. Et ce seront eux qui verront le premier, le retour de Jésus. Quand j'étais plus jeune, je disais, Seigneur, je voudrais être au premier rang, je voudrais être en premier. Les premiers, ce sont les morts qui verront Jésus venir et qui ressusciteront tout de suite. Premièrement, c'est eux. Ensuite, alors, nous les vivants, alors combien il y aura de temps, peut-être quelques minutes ou quelques secondes, je ne sais pas, c'est compliqué. Ensuite, la mort, les morts ressuscitent. Ensuite, nous, les vivants. Parce qu'il y aura des gens sur la terre, il y aura une église sur la terre, malmenée, maltraitée, souffrante, mais l'église sera là. Et l'église, ce sont ceux qui ont mis confiance et amour en Jésus-Christ. Eh bien, ces gens-là, juste après les morts, ils seront changés, transformés. C'est écrit dans la Bible, tout ça. Et ils partiront ensemble, avec les morts ressuscités, avec les vivants transformés, ils partiront ensemble. Que j'aime ce mot « ensemble ». Vous ne pouvez pas vous imaginer. Restons ensemble. Je l'aime parce que « ensemble, retrouvailles », c'est beau. J'imagine un peu peut-être, non ? Je ne crois pas que j'imagine beaucoup. Ensemble, ils se reverront, ils se retrouveront et ils partiront vers le Seigneur. Et l'apôtre Paul, il termine l'épître en disant « Consolez-vous par ces paroles. Vous passez par des deuils, consolez-vous par ces paroles. » Quand ils partiront, les vivants actuellement sur terre suivront. Et pourquoi l'apôtre Paul dit « Nous les vivants, nous ». Pauvre Paul, ça fait longtemps que tu es mort. Nous. Mais je pense qu'il faut toujours dire nous. Je pense qu'il faut que tous les chrétiens se sentent concernés par le retour. Il ne faut pas qu'on dise, bon, les vivants de demain, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème. Voilà ce que j'entends souvent. Ce n'est pas mon problème. Il faut dire nous. Tant qu'on est sur la terre, on est dans l'attente du retour, dans l'attente du Christ. Alors nous, ils partiront à la rencontre du Seigneur sur les nuées, quelle rencontre. Il y aurait beaucoup de choses à dire là, mais on n'a pas le droit. J'ai pensé à la descente de Jésus du ciel, mais oh, quel événement! Je me suis ébahi, je me suis enthousiasmé, je me suis amouraché, j'aimerais presque dire, de la venue de Jésus dans une crèche, à partir d'une vierge. Je ne dis pas que cet avènement sera supérieur, mais autre. Il reviendra du ciel. Et ils entendront les morts dans les tombeaux. Mystérieux, ça. Hein, les tombeaux n'existent plus au bout d'un moment. Dans la mort, ils entendront la voix du Christ. Et ils sortiront des sépulcres. Je vais traduire en français courant. Ils sortiront de la mort. Sortiront de, j'en parlerai bientôt, de l'état intermédiaire. Entre notre mort et la résurrection, il y a combien ? Il y a des mois, des années, des siècles parfois. C'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Et là, on est dans le paradis et on attend toujours. Et là, tous ces morts qui ont eu la foi et qui sont avec Jésus dans le paradis, ils entendront la voix du Seigneur et ils sortiront de leur état intermédiaire entre les deux pour entrer avec un corps comme le vôtre et le mien, mais céleste, entrer dans la présence de Dieu. Cette montée, comme je trouve admirable, je pense à Moïse qui montait sur le mont Sinaï, je pense à Moïse qui montait avec au son des trompettes aussi, hein, Moïse, attention, et avec les anges qui donnaient la loi de Moïse. Enfin, Je me dis, quel gigantesque rassemblement! C'est l'aboutissement de tout. C'est pas le point final, mais c'est le bout du chemin. Il faut bien qu'il y ait un bout de chemin pour finir. Et le bout du chemin, c'est pas de descendre dans une tombe, c'est de monter à la rencontre du Christ. Et je vous cite Jésus dans l'évangile de Matthieu. Il enverra le Christ, il enverra ses anges avec la trompette, Matthieu 24, grand chapitre, la trompette retentissante. La trompette, moi j'ai pensé cette semaine, je me dis ça peut être aussi la voix, la parole. Parce que le coup de trompette, je ne suis pas musicien. C'est vrai que quand Israël bougeait dans le désert, il y avait des coups de trompette. Et le camp d'Israël se mettait en route. Mais ce coup de trompette, ça pourrait être une parole de Dieu qui, elle, peut créer le monde. Elle a créé le monde. Alors, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront les élus, les chrétiens, morts depuis longtemps, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. On a l'impression qu'il y aura un grand coup de trompette et tous les frères et sœurs en Christ, depuis le commencement, boum, ils apparaîtront dans un corps ressuscité. C'est beau? La fin est bonne? L'apôtre il dit « Consolez-vous par ces paroles ». Véritable consolation, c'est pas d'espérer une petite amélioration, c'est de se dire un jour « Je vais monter ». Je n'ose pas dire « aspirer » ou « inspirer » par l'amour du Christ. Je vais monter, attirer. Oui, attirer. Quand je serai élevé de terre, dit Jésus, en parlant de la croix, mais aussi en parlant de son avènement, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est beau. Alors maintenant, c'est le moment de lire notre petit texte que je vais lire avec vous dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, mais vous connaissez bien ce texte, et au verset 14. Ceux qui n'ont pas la Bible, vous écoutez, et puis vous connaissez ce texte, il a été lu dans presque toutes les églises, quand il y a des funérailles, on lit souvent ce texte. Si nous croyons que Jésus... Alors, je répète, 1 Thessaloniciens 4, 14. Si nous croyons que Jésus est mort, vous le croyez? Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. C'est ça l'évangile, mes amis. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas l'intuition, c'est une déclaration de Dieu. Verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Voilà, écoutez bien. « Prêtez l'oreille. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. On ne passera pas devant. D'abord eux. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. On a lu? C'est bon? Et les morts en Christ, enveloppés du Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, juste après, ça ne va pas demander des siècles, hein. Juste après. Ensuite, nous les vivants, il y a les aînés puis il y a les cadets. Hein. Ceux qui attendent depuis 2000, 3000 ans, 4000 ans, allez, à vous l'honneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, comme j'aime ce mot, ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul conclut, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. On a de l'espérance. On n'est pas perdu. Dieu s'occupe de nous du commencement jusqu'à la fin. Rien n'échappe à son gouvernement. Que Dieu vous aide. Qu'il vous aide à garder la foi surtout. Parce que je le dis souvent, mais j'aime bien le dire. Ça, c'est le grand pas. C'est le oh, hop là, on fera le grand pas vers Dieu, notre Père. Mais ce qui compte, le petit pas. Décidément, on ne s'en sort pas. Le petit pas qui consiste à dire « Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie et ma vie t'appartient. » C'est un tout petit pas. Ça prend quelques secondes, mais ça dure toute la vie quand même. Et ce petit pas, il nous permettra de faire le grand. Je dis souvent, mais avec un peu d'humour, ce qui est important, c'est le premier pas. Après, ça coule tout seul. Ça suit, ça suit. Le Seigneur s'en occupe, il nous ressuscitera, etc. Ça suivra. Le premier pas, c'est vous qui l'avez dans vos mains. Et si vous ne le faites pas, il n'y aura pas la suite.